RFI, 10h30 à Kampala, 8h30 à Paris et 7h30 à Conakry. Et tout de suite le journal, présenté par Édouard Dupénoit.
Avec cette ressortissante autrichienne enlevée avant-hier soir au Niger, c'est la diplomatie à Vienne qui le confirme à son tour. Eva Gretzmacher a 73 ans. On ignore pour l'heure l'identité de ses ravisseurs. Revirement de situation pour Ibrahima Kassori Fofana, ex-premier ministre de Guinée. Après un mois d'incertitude, il n'a finalement pas le droit de quitter le pays pour aller recevoir des soins en France et son avocat s'en indigne. La compilation des résultats qui commence aux Comores, journée de vote, hier, premier tour des élections législatives. Une affluence bien faible à travers l'archipel. Le camp du pouvoir se dit déjà confiant. Kizza Besigye de retour devant la justice militaire ougandaise aujourd'hui, l'opposant à qui l'on reproche d'avoir détenu une arme à feu et d'avoir voulu s'en servir. Et puis le groupe État islamique qui se renforce grâce à la Somalie, grâce au Puntland particulièrement, base arrière du groupe terroriste, base discrète, mais ô combien importante. Le ministère autrichien des Affaires étrangères confirme donc à son tour l'enlèvement d'une ressortissante établie à Agadez, Eva Gretzmacher, 73 ans. Installée depuis quasiment 30 ans dans cette grande ville du nord du Niger, elle a été kidnappée avant-hier soir à son domicile par des hommes encore non identifiés. De quoi susciter l'émotion de celles et ceux qui sont nombreux à la connaître, Magali Lagrange.
Agadez, tout le monde la connaît, elle est comme notre sœur, témoigne un habitant de la ville. Eva Gretzmacher y est établie depuis 28 ans, selon ses proches. Très intégrée dans la vie de cette ville du nord du Niger, la ressortissante autrichienne, décrite comme très active, est connue pour ses projets en faveur des femmes et de l'éducation. Son enlèvement, samedi soir, à son domicile par des hommes armés non identifiés, a provoqué une vague d'émotion. Des recherches sont en cours pour tenter de retrouver la trace de cette femme de 73 ans que ses ravisseurs ont emmenée à bord d'un pick-up vers une destination inconnue, après avoir un peu brutalisé le gardien, de sources locales. Les forces de défense et de sécurité nigériennes sont mobilisées, appuyées par l'UNVP, l'Union des Nigériens pour la Vigilance et le Patriotisme, créée dans la foulée du coup d'État de juillet 2023. C'est la première fois qu'un ressortissant européen est enlevé à Agadez. Selon le média local Air Info, Eva Gretzmacher avait déjà fait l'objet de menaces d'enlèvement en 2021.
Magali Lagrange, Ibrahima Kassori Fofana, privé encore pour l'heure de soins médicaux à l'étranger. L'ancien premier ministre guinéen est aux mains de la justice depuis bientôt 3 ans, mais ses avocats font valoir de longue date que sa santé ne lui permet pas d'endurer un procès. La CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques, souhaiterait notamment l'entendre sur les accusations de détournement de fonds qui le visent. Il y a un mois, un juge l'autorisait pourtant à quitter le territoire guinéen pour une durée impartie. Finalement, non seulement cette décision a été annulée, mais en plus, le juge qui en est l'auteur a été récusé. Colère de l'un des avocats de Kassori Fofana, maître Dina Sampil.
Le juge, parce qu'il a simplement eu le courage d'ordonner l'évacuation de M. Fofana, il a été récusé parce qu'il n'a pas suivi les recommandations du procureur spécial qui est toujours opposé à cette évacuation. Le juge qui est venu en remplacement s'est laissé entraîner par le procureur spécial de prendre une audience le 31, alors que le renvoi avait été fait pour le 6 janvier. Alors, il prend cette audience pour décider de la comparution personnelle de Kassori. Il est conscient de la maladie de Kassori et de son impossibilité de s'asseoir, à plus forte raison, se tenir debout. Donc, lorsqu'on a compris que lui, il est à la disposition du procureur pour entériner sa volonté au détriment des lois de la République, on a à notre tour formulé une récusation contre lui qui est en examen. Est-ce que le président de la juridiction fera comme il l'a fait à la requête du procureur, accepter la récusation du juge qui est venu en remplacement du premier? Nous sommes à ce niveau.
Maître Dina Sampil, l'un des avocats de l'ancien premier ministre de Guinée, Ibrahima Kassori Fofana. Il est 7h34 à Conakry, 8h34 à Paris et 2h de plus à Moroni, l'archipel des Comores qui compile ce matin les résultats de ces élections législatives. Premier tour hier pour renouveler les 33 sièges du Parlement. Avec un scrutin marqué d'une part par le boycott de plusieurs opposants et d'autre part par une faible affluence dans les bureaux de vote, bien qu'il n'y ait encore pas de chiffres disponibles sur la participation. Abdallah Mzembaba, notre correspondant, suivait ce dimanche électoral.
Les missions d'observation font le même constat, la faible affluence dans les bureaux de vote. Mais certains électeurs ont tout de même fait le choix d'aller voter. C'est le cas de Mohamed Mmadi, rencontré dans un bureau de vote à la coulée.
Voter, c'est le rôle de la démocratie.
Un vote, c'est un des signes de la démocratie dans un pays. S'il y a des gens qui font campagne pour que d'autres n'aillent pas voter, c'est leur droit et cela n'engage qu'eux. Mais pour chaque Comorien, nous l'avons appris, on le sait, voter est un droit. Quant au choix de la personne en qui tu décides d'accorder ta confiance, cela n'engage que toi et Dieu. Mais voter est aussi un devoir.
D'autres, comme Hassan, croisés à Hankounou, sont persuadés que le processus électoral en cours n'est pas démocratique. Il a donc choisi de ne pas voter pour ces législatives.
Ce que je constatais, il y a plein d'élections qui sont passées ici d'une manière illégale, avec les mascarades qui sont passées ici. Donc là, moi, personnellement, je me suis découragé. Avec ça, moi, je suis dit que j'en ai marre. Là, même le monde entier a tout vu. Tout ce qui se passait sur les élections des présidents, des tout.
Des candidats de l'opposition ont dénoncé des actes d'irrégularité tout au long de la journée d'hier. La CENI, de son côté, dit n'avoir pas reçu de réclamation officielle. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
Le second tour de ces élections est prévu pour le 16 février. L'archipel des Comores, qui semble par ailleurs avoir été épargné par Dikeledi, rétrogradé pour l'heure au stade de tempête tropicale. 3 personnes sont mortes en revanche dans le nord de Madagascar. Au moins 1700 autres ont été sinistrées. Pour l'heure, la tempête suit le couloir du canal du Mozambique. Elle se dirige vers le sud. Elle pourrait frapper de nouveau Madagascar, le sud du pays cette fois, demain ou après-demain. Ce lundi marque, en théorie, la reprise du procès de l'opposant ougandais Kizza Besigye. Ancien colonel, ancien médecin personnel du président Museveni, il est poursuivi pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Il a été arrêté à la mi-novembre, kidnappé, dit d'ailleurs son épouse, alors qu'il se trouvait à l'étranger. Depuis le début, il nie les accusations portées contre lui. Il déplore d'ailleurs d'être jugé par un tribunal militaire. Le tout, Pierre Firsion, alors que la procédure et la dernière audience ont été marquées par l'interpellation de l'un de ses avocats.
Cette nouvelle audience devant la cour martiale va-t-elle pouvoir se tenir dans des conditions normales? C'est là toute la question. Car lors de la précédente audience, mardi dernier, un avocat de l'opposant a été arrêté. Séquence incroyable. Sur des images vidéo, on voit Aaron Kiiza être violemment malmené en pleine audience par des soldats avant d'être envoyé en prison pour 9 mois sans inculpation formelle. Son tort, il aurait, selon le tribunal militaire, commis une faute professionnelle. Avant cela, des militaires avaient, selon un autre avocat de l'accusé, tenté d'empêcher les représentants de Kizza Besigye d'entrer dans le tribunal. En réaction, une manifestation a eu lieu jeudi pour réclamer la libération de Aaron Kiiza, mobilisation au cours de laquelle 7 activistes ont été brièvement interpellés avant d'être remis en liberté. Kizza Besigye avait comparu une première fois le 20 novembre devant la cour martiale et ce 4 jours après avoir été, selon son épouse, kidnappé à Nairobi. Au cours de cette première audience, l'ancien colonel avait nié les accusations de détention de pistolets et contesté la compétence de cette cour. La légitimité du tribunal militaire a été au cœur des débats mardi dernier. Kizza Besigye demande depuis le début à être jugé par un tribunal civil.
Nous recevions ce matin la professeure Florence Brisset-Foucault, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris 1, affiliée aussi à l'Université de Makerere à Kampala pour parler de cette audience et du cas de Kizza Besigye. Vous écoutez cet entretien sur notre application RFI Pure Radio. En Somalie maintenant, la progression sous les radars du groupe État islamique. RFI vous propose ce matin un long éclairage sur cette filiale de l'EI qui intéressait relativement peu de monde il y a 10 ans lorsqu'elle est née et qui est devenue progressivement un centre logistique et financier de premier ordre. Les bons connaisseurs de cette mouvance terroriste estiment qu'elle participe aujourd'hui très largement aux finances générales du groupe, et ce, Florence Maurice, en récoltant et en faisant transiter des millions tous les mois.
Plus de 4 millions de dollars par an, c'est le montant que le groupe État islamique en Somalie arrive à récolter selon l'ONU, notamment via l'extorsion au port de Bosaso ou en imposant des taxes illégales. Cette force de frappe financière lui permet d'envoyer d'importantes sommes d'argent à d'autres provinces du groupe en Afrique et dans le monde, jusqu'en Afghanistan et au Pakistan, qui utilisent ces fonds pour acheter des armes ou encore payer les salaires de leurs combattants. Mais ce n'est pas tout. La Somalie serait également la plaque tournante des transferts de fonds entre les provinces du groupe État islamique dans le monde. Pour compenser la perte de ses anciens bastions en Irak et en Syrie, le groupe cherche à renforcer les liens entre ses filiales régionales. La branche somalienne de l'EI joue donc un rôle central dans cette nouvelle stratégie. Tout cela lui confère une influence considérable au sein de l'organisation au niveau mondial. L'EI Somalie s'appuie notamment sur les réseaux traditionnels de transfert de fonds informels, toujours en vigueur en Afrique de l'Est. Le groupe utiliserait également les crypto-monnaies pour ses transferts de fonds, un marché numérique encore très peu réglementé.
Une précision de Florence Maurice. Ni son nom latin, enfin ni son nom vulgarisé ne devrait vous dire quoi que ce soit. À moins, bien sûr, que vous ne soyez vous-même féru de paléontologie. Le Carinodens acrodon rejoint la grande famille des mosasaures d'urophages. Sympathique reptile marin de plusieurs mètres de long, disparu en fait il y a des millions d'années, mais dont des chercheurs, particulièrement ceux de l'université de Bath, viennent de retrouver un fossile. Et cela dans l'un des très nombreux gisements de phosphate que compte le Maroc. Photo de famille avec François Humfer-Kataji.
Le Maroc est le deuxième producteur mondial de phosphate. Le pays regorge de gisements. Ses lieux d'extraction sont aussi un terrain d'exception pour les paléontologues qui cherchent toujours à en savoir plus sur la vie sur Terre il y a 66 millions d'années et avant, lorsque les derniers dinosaures ont disparu de la surface du globe. Dans la dernière décennie, la mine à ciel ouvert de Sidi Chenan, à 250 km au sud de la capitale Rabat, a fourni de nombreux fossiles d'espèces animales qui peuplaient les mers au Crétacé supérieur. Et parfois, des découvertes plus impressionnantes sont réalisées. Le paléontologue Nicholas Langridge de l'université de Bath en Angleterre a détecté la présence d'une nouvelle espèce de lézard marin mesurant de 2 à 3 mètres de long, caractérisée par ses dents basses et rectangulaires. C'est la deuxième découverte de ce genre en moins de 2 ans. Au-delà des reptiles marins, les paléontologues espèrent aussi retrouver des traces de dinosaures en étudiant les bassins de phosphate marocains. Les scientifiques estiment que l'Afrique comptait probablement beaucoup plus d'espèces de dinosaures que l'Amérique du Nord, et pourtant les découvertes ont été moins nombreuses sur le continent. L'étude des vestiges de fonds marins pourrait dévoiler quelques secrets. Des os de dinosaures ont déjà été retrouvés dans les sédiments marins d'Afrique du Nord. François Humfer-Kataji, Casablanca, RFI.
À Casablanca, il est 8h42, même heure à Paris et sur RFI toujours, RFI Matin continue. Et c'est avec Andréane Mélard.
Et c'était le journal d'Edouard Dupénoit. Merci Edouard.